18h-20h, votre grand journal du soir, Thierry Dagiral.
Bonsoir à tous, soyez les bienvenus, ravi de vous retrouver pour ces deux heures d'infos. À la une de l'actualité ce soir, mettre le paquet sur la jeunesse, l'expression est de Jean Castex, le Premier ministre qui a présenté son plan pour l'emploi des jeunes. Le détail dans un instant dans votre journal, François Clouse. Bonsoir François.
Bonsoir Thierry, bonsoir à toutes, bonsoir à tous.
18h20, c'est elle qui devra maintenant appliquer ce plan jeune, le mettre en œuvre. Elle était aux côtés du Premier ministre ce matin, elle est ce soir en studio ici à Europe 1. Elisabeth Borne, la ministre du Travail, sera mon invitée dans 20 minutes. 18h30, les grandes voix, on va parler incivilité ce soir alors que Gérald Darmanin est en ce moment même à Nice où une fusillade a eu lieu en plein jour hier. Plusieurs maires sont vent debout partout en France. Comment venir à bout ces incivilités du quotidien? Prenez la parole, c'est important de vous entendre sur ce sujet. 39-21. Bonsoir Marlène.
Bonsoir Thierry.
On est ensemble jusqu'à 20h, c'est votre grand journal du soir et on écoute Le Monde changé sur Europe 1.
18h, merci d'avoir choisi Europe 1.
Le gouvernement a décidé de mettre le paquet sur ce sujet de l'emploi des jeunes.
6 milliards et demi d'euros sur la table pour sauver la génération Covid. C'est 700 000 jeunes qui arrivent sur un marché de l'emploi ravagé. Tous les détails du plan jeune du gouvernement dans un instant.
Visite surprise en ce moment même du ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin à Nice dans le quartier des Moulins où une fusillade a éclaté lundi en plein jour et où le maire Christian Estrosi a été quelque peu chahuté hier soir.
Nous allons faire plier ceux qui veulent faire plier la République. Et nous allons continuer à lutter avec la première force contre tous ces trafics, quels que soient les quartiers, à Nice ou ailleurs.
L'actualité de ce jeudi 23 juillet, c'est aussi Jean-Yves Le Drian, au chevet d'un Liban au bord de la faillite, le Parlement qui valide la création d'une cinquième branche pour la sécurité sociale consacrée à la perte d'autonomie.
L'ancien ambassadeur du Vatican accusé d'agression sexuelle sera bel et bien jugé en France le 10 novembre prochain. Les victimes sont soulagées.
On a mis fin à l'immunité de Luigi Ventura. Il faut mettre fin maintenant à cette impunité. Il va y avoir un procès et c'est une excellente nouvelle.
La bourse de Paris à Tône ce soir à 5033 points.
Et la tendance météo, Valérie Darmon.
Eh bien, la météo qui reste toujours nuageuse, enfin une alternance de nuages avec quelques belles éclaircies depuis la Bretagne jusque sur les Ardennes en ce vendredi. Orageuse toujours sur les reliefs et du soleil partout ailleurs. Les températures entre 21 à Brest et 35 à Montpellier. Bien sûr, il s'agit des maximales et je vous en dirai plus tout à l'heure.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Thierry Dagiral, François Clos.
6 milliards et demi d'euros donc sur la table pour sauver une génération. C'est le défi formulé par le Premier ministre aujourd'hui venu à Besançon présenter le dispositif pour inciter les entreprises à embaucher des jeunes. C'est 700 000 jeunes qui vont arriver, Olivier Samin, sur le marché de l'emploi dans les prochains mois avec une mesure phare.
Oui, cette fameuse aide de 4 000 euros qui sera versée aux entreprises qui embaucheront un jeune de moins de 26 ans dans les 6 mois qui viennent, autrement dit entre le 1er août prochain et le 31 janvier 2021. 4 000 euros versés en 4 fois, 1 000 euros par trimestre pour encourager les employeurs à prolonger le contrat des jeunes, sachant que le contrat doit être au moins un CDD de 3 mois. Tous les jeunes gagnant jusqu'à 2 fois le SMIC seront éligibles à ce dispositif. Ça, c'est une nouveauté par rapport aux premières annonces. Le 14 juillet, souvenez-vous, Emmanuel Macron avait évoqué un plafond de 1,6 fois le SMIC qui conduisait, dans les faits, à exclure les jeunes diplômés Bac plus 5 ou Bac plus 6. Le patronat a fait un lobbying intense qui, on le constate aujourd'hui, a été payé en retour. Les jeunes diplômés entreront dans le périmètre. Avec ce dispositif concentré sur une période assez courte, 6 mois, le gouvernement cherche à accélérer les décisions d'embauche. L'objectif affiché, c'est 450 000 embauches de jeunes d'ici à la fin du mois de janvier.
Merci Olivier Samin du service économie d'Europe 1.
Alors les entreprises vont-elles s'emparer de ce dispositif, de cette aide de 4 000 euros à l'embauche d'un jeune?
Oui, répond le patron de la CPME, le syndicat des petites et moyennes entreprises. Oui, oui, mais...
Par le passé, il y a déjà eu des dispositifs peu ou prou similaires à celui-ci, avec des primes à la première embauche par exemple. Et bien là, centré sur les jeunes et concentré sur une durée jusqu'à la fin de l'année, oui, ça peut avoir un effet tout à fait démultiplicateur pour les entreprises qui sont en position de recruter.
Mais vous vous dites qu'il faut quand même qu'au départ, il y ait de l'activité.
Ah ça, il ne faut jamais l'oublier. Une entreprise qui n'a pas de travail, elle ne recrutera pas. Elle va déjà essayer de conserver ses effectifs, hein, de tout faire pour éviter de licencier. Si elle a de l'activité, bien évidemment, là, d'un seul coup, ça change. Alors, il peut y avoir aussi des départs en retraite. On remplace un départ par une nouvelle embauche. Et puis là, si c'est un jeune avec une prime à la clé, bien évidemment, c'est incitateur. Mais l'activité, c'est l'élément clé. Tout se tient en matière d'emploi. Hein, lorsque vous avez, comme l'est annoncé, un plan de relance qui peut faire espérer à certains secteurs d'activité qu'il y ait un retour à meilleure fortune en matière économique par rapport à la période que nous traversons, et qu'en plus vous avez des mesures incitatives pour bien faire basculer dans le choix d'un recrutement en plus d'un jeune, oui, ça peut fonctionner. En tout cas, la CPME, nous allons accompagner ce dispositif.
François Asselin, le président du syndicat des petites et moyennes entreprises, interrogé par Olivier Samin.
Et dans un quart d'heure, la ministre du Travail, Elisabeth Borne, va nous expliquer précisément ce plan pour les jeunes.
Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, en visite surprise cet après-midi à Nice, dans le quartier des Moulins, sous tension depuis deux jours. C'est dans ce quartier qu'une fusillade a éclaté en plein jour lundi dernier. C'est dans ce quartier qu'hier soir, le maire de la ville, Christian Estrosi, a été quelque peu chahuté. Gérald Darmanin, sur place, a lancé ce premier message.
C'est le travail du ministre de l'Intérieur d'être là où les policiers sont. Et ce qui s'est passé quand on voit un préfet courageux, un maire courageux, qui viennent saluer d'ailleurs les renforts de CRS que nous avons envoyés ici et qui se font pas bien accueillir dans un quartier, ce n'est pas acceptable. L'ensemble des élus et tous les citoyens sont partout chez eux en République. Et il n'y a pas de zone de non-droit, il n'y a pas d'endroit où on ne va pas en République. Donc moi je viens là où la police fait son travail, parfois un travail difficile, reprendre des mètres carrés aux trafiquants de drogue qui empoisonnent la vie des quartiers et qui tuent la vie dans ces quartiers que je connais bien pour être maire moi-même, c'est tout à fait inacceptable, on ne peut pas le laisser passer. Et si je dois venir effectivement à chaque fois qu'il y a ce genre de problème, je viendrai à chaque fois pour assurer les policiers de mon soutien. On ne doit pas laisser à nouveau la gangrène de la drogue se propager. Et je veux dire que nous allons faire plier ceux qui veulent faire plier la République, ici à Nice comme ailleurs.
Et le Premier ministre Jean Castex à Besançon a annoncé qu'il allait prendre très rapidement des mesures pour lutter contre les violences et il se rendra lui-même, Salomé Legrand, à Nice dès samedi.
Et oui, depuis son discours de politique générale la semaine dernière, marqué par une volonté de fermeté sur ces questions sécuritaires, un discours qui promettait une réponse sans complaisance à des faits inacceptables qui exaspèrent les Français. Le Premier ministre et le ministre de l'Intérieur multiplient les déplacements express pour occuper le terrain. À Nice, tout est parti, vous l'avez dit, d'une fusillade en plein jour à 9h lundi matin. Pas de blessés, mais un grand émoi des habitants de ce quartier sensible, point de deal connu dans la ville. Le maire LR, Christian Estrosi, avait demandé des moyens supplémentaires immédiatement accordés par Gérald Darmanin. 60 CRS qu'il a évoqués ont été envoyés en renfort. Mais après Dijon, Bayonne, le gouvernement tient à marquer le coup. Jean Castex a donc promis ce matin des annonces concrètes face à des actes, je cite, inadmissibles. Inadmissible, c'est aussi le mot martelé par Gérald Darmanin dans les quelques échanges avec les badauds aux abords de la préfecture.
Salomé Legrand du service police-justice d'Europe 1.
Et on va en parler bien sûr à 18h30 avec les grandes voix ce soir. Le ministre des Affaires étrangères Jean-Yves Le Drian est arrivé ce matin à Beyrouth dans un pays ravagé par la crise économique.
Le Liban où les manifestations dans la rue pour dénoncer l'incurie des politiques et la dégradation des conditions de vie avaient débuté avant même le confinement. Ce Liban est bel et bien aujourd'hui au bord de la faillite. À peine arrivé, le ministre français des Affaires étrangères, Nicolas Feldman, a lancé un message très clair aux gouvernants libanais.
Oui, il est urgent et nécessaire de s'engager dans la voie des réformes. Voilà les mots de Jean-Yves Le Drian. Urgence, il y a parce que le Liban traverse la pire crise économique de son histoire. Un pays en défaut de paiement, près d'un Libanais sur deux vit dans la pauvreté. En quelques semaines, en fait, la monnaie s'est totalement effondrée, perdant plus de 80% de sa valeur. Et cela impacte la vie de tous les jours. Écoutez par exemple Camille, il habite à Beyrouth.
Le prix du pain a augmenté de 50 à 70%. Beaucoup de produits, surtout importés, n'existent plus. Je cite là les médicaments et le tabac. En fait, rien ne va plus au Liban. Le pays s'est écroulé comme un château de cartes.
Voilà, l'urgence, c'est donc aussi de débloquer de l'argent frais. Mais pour cela, les bailleurs de fonds, la France en tête, exigent des réformes au Libanais, lutte contre la corruption, modernisation des infrastructures. Mais ces réformes ne viennent pas. Sami Nader est économiste.
Ces réformes-là, les Libanais les attendent depuis plus d'une décennie et ils n'arrivent jamais parce que ceux à qui on demande de réformer bloquent les réformes. Les partis politiques en présence se font financer par l'État. C'est une dilapidation de l'argent public.
Multiplier les rencontres pour obtenir des actes concrets, voilà le programme de Jean-Yves Le Drian à Beyrouth, lui qui a répété aujourd'hui aux dirigeants une formule désormais célèbre, Aidez-vous et la France ainsi que ses partenaires vous aideront.
Merci Nicolas Feldman. À l'étranger, on retiendra que le Parlement européen menace de rejeter le budget de l'Europe approuvé par les 27 contestant les coupes budgétaires qui ont été imposées par le plan de relance. Michel Barnier, lui, est très pessimiste. Il n'y aura pas d'accord pour le moment post-Brexit dans la situation actuelle avec l'Angleterre. Et puis, comme la France, la Belgique adopte à son tour le masque obligatoire dans les lieux clos.
Europe 1. 18h09, à suivre Thierry Dagiral.
Dans un instant, l'ancien ambassadeur du Vatican à Paris, accusé d'agression sexuelle, il sera bel et bien jugé en France en novembre prochain. A tout de suite.
Europe 1.
Il est 18h11, la suite du journal sur Europe 1, François Claus, Thierry Dagiral.
L'ancien ambassadeur du Vatican à Paris sera bel et bien jugé en France, ce sera le 10 novembre prochain, François.
C'est une information que vous révélez ce matin, Salomé Legrand, sur Europe 1. Le Vatican, dans une procédure tout à fait exceptionnelle, avait accepté de lever l'immunité diplomatique du nonce apostolique Luigi Ventura, accusé d'attouchement par 4 plaignants, dont Benjamin Guy, qui exprime ce soir sa satisfaction de voir justice passer.
C'est très très bien parce que compte tenu de son statut, de son pouvoir, c'était pas gagné d'avance. Depuis le début, l'objectif était que Luigi Ventura se présente devant la justice française pour répondre de ses actes. On a mis fin à l'immunité de Luigi Ventura. Il faut mettre fin maintenant à cette impunité. Il va y avoir un procès et c'est une excellente nouvelle.
Âgé de 75 ans, aujourd'hui à la retraite et vivant à Rome, Luigi Ventura se présentera devant la justice française, prêt à se défendre, selon son avocat, Maître Bertrand Olivier.
Il a hâte de pouvoir s'exprimer et se défendre. Il y a des contradictions importantes dans ce dossier, des incohérences, des choses que nous mettrons en avant pour justifier de l'innocence de Mgr Ventura, qui a été, je le signale quand même, extrêmement marqué par ces accusations qui sont effectivement, compte tenu de leur nature, extrêmement infamantes. Voilà. Donc la phase de l'audience va être le moment où nous allons pouvoir effectivement rentrer dans les éléments de défense des incohérences que nous démontrerons devant les juges.
L'avocat Bertrand Olivier qui défendra donc Luigi Ventura. Ses témoignages ont été recueillis par Salomé Legrand. Christophe Girard, le premier adjoint à la mairie de Paris, annonce qu'il va quitter son poste. Il a été sous le coup de plusieurs accusations, celle d'avoir entre autres soutenu publiquement l'écrivain pédophile Gabriel Matzneff.
1 milliard d'euros, voilà ce que le foot français aurait perdu depuis le brutal arrêt des compétitions.
C'est le chiffre que le cabinet d'expertise EY nous fournit aujourd'hui. Les stades vides, l'absence de droits télé plombent dangereusement l'avenir de la Ligue 1, avec potentiellement des conséquences sur l'emploi dans le secteur, 3 à 4 000 licenciements. Simon Rubin, ça va être compliqué pour le foot français de s'en relever.
Oui, alors pour être précis, on parle même d'1,27 milliard d'euros pour le foot professionnel. C'est l'équivalent de 4 ans de croissance du chiffre d'affaires de la Ligue 1 et de la Ligue 2. Et l'avenir est effectivement tout aussi compliqué puisque cette même étude évalue une perte de chiffre d'affaires allant de 600 à 950 millions d'euros pour le foot professionnel la saison prochaine. Et ce, malgré les aides d'État, les reports de charges, les exonérations liées au plan tourisme. Alors, pour la suite, le foot français s'organise pour trouver des solutions et le syndicat Première Ligue lance plusieurs pistes. La première, ce serait une exonération de contribution patronale pour l'ensemble des clubs pro du 1er juillet au 31 décembre 2020. On parle aussi d'un rétablissement du droit à l'image. Ce serait un dispositif qui permet de rémunérer les sportifs sous forme de droit à l'image. Enfin, autre proposition, abaisser la taxe buffet, cette taxe sur les droits télé du foot, dont une partie est redistribuée, non pas au football, mais au sport amateur en général. Alors là, politiquement, on le comprendra, c'est très polémique. Cela reviendrait à priver les amateurs en difficulté pour soutenir le foot professionnel. Et on conviendra que cela dénote d'une vision de la solidarité pour le moins contestable.
Simon Rubin du service des sports d'Europe 1. L'actionnaire américain de l'OM, Frank Marcourt, lui met fin à toutes les spéculations, annonce qu'il refuse formellement de revendre son club et d'entamer des négociations avec l'investisseur franco-tunisien soutenu par Mourad Boudjelal qui était candidat au rachat.
Merci, c'était le journal de François Claus. François, on se retrouve bien sûr à 18h30. La météo tout de suite. Bonsoir Valérie Darmon, demain des averses sur les reliefs Valérie.
Effectivement, toujours. Et sur la moitié nord et jusqu'au nord de la vallée du Rhône, la journée qui débute sous les nuages. Comme vous finissez un petit peu ce jeudi d'ailleurs. Mis à part donc sur les Pyrénées et les Alpes où le ciel est toujours couvert, il fait beau partout ailleurs. Du sud-ouest au Jura, au fil des heures, le soleil va parvenir à s'imposer. Les éclaircies sont un petit peu plus rares. De la Bretagne aux Ardennes où quelques gouttes peuvent tomber. Et Mistral et Tramontane soufflent dans leur domaine en rafale entre 50 et 60 km/h. Et le vent qui est aussi sensible sur les côtes de Provence. Voilà les petits bémols du jour. Les minimales, 13 à 18 degrés en général, jusqu'à 19 à 23 en bord de Méditerranée. Les maximales, comprises entre 20 et 24 degrés, de la pointe bretonne aux côtes de la Manche, 25 à 30 sur le reste du pays, jusqu'à 35 dans le sud-est et 36 toujours dans le Var. Exactement les mêmes valeurs qu'aujourd'hui.
La météo des plages, Valérie, à 18h30.
Il est 18h16, Thierry Dagiral. L'emploi des jeunes, on en parle dans un instant dans ce grand journal du soir.
Exactement, plus de 6 milliards pour ce plan jeune. Un millefeuille de mesures très concrètes, mais seront-elles efficaces? Restez avec nous, on va prendre du temps pour poser les choses avec la ministre du Travail, Elisabeth Borne. Elle est mon invitée dans 2 minutes sur Europe 1.
Europe 1.
Le grand journal du soir se poursuit avec vous Thierry Dagiral et votre premier invité. Alors que le plan emploi jeune vient d'être présenté, eh bien vous recevez la ministre du Travail, de l'Emploi et de l'Insertion, Elisabeth Borne.
Bonsoir Elisabeth Borne.
Bonsoir.
Vous étiez aux côtés de Jean Castex ce matin à Besançon pour présenter ce plan jeune qu'on va détailler. 750 000 jeunes sur le marché du travail. Vous vous engagez à en sauver combien grâce à ce plan?
Écoutez, l'objectif, c'est d'avoir une réponse pour chaque jeune, les 750 000 qui arrivent sur le marché du travail à la rentrée, mais aussi les centaines de milliers de jeunes qui sont déjà en recherche d'emploi ou en inactivité. Et donc, c'est un plan massif, 6,5 milliards d'euros.
Mais combien, madame la ministre, combien de jeunes visez-vous précisément?
Alors, je ne vais pas vous dire précisément. Ce que je peux vous dire, c'est qu'on veut avoir une réponse pour ces 750 000 jeunes et les centaines de milliers de jeunes qui sont déjà en recherche d'emploi. Donc ça veut dire que c'est plus d'un million de jeunes qu'on veut accompagner au travers de ce plan.
On va s'arrêter d'abord sur cette fameuse prime de 4 000 euros pour l'embauche d'un jeune de moins de 25 ans. Ça, c'est à partir du 1er août et jusqu'au 31 janvier 2021, c'est ça?
Absolument. Donc c'est dès maintenant, au 1er août, et ça va effectivement durer 6 mois. L'idée, c'est que les entreprises, aujourd'hui, elles peuvent hésiter à embaucher, elles peuvent se dire que la conjoncture est incertaine, et on ne veut pas qu'elles diffèrent l'embauche des jeunes qui arrivent sur le marché du travail. Donc, de façon exceptionnelle, c'est un dispositif nouveau, on va leur faire une compensation de charges à hauteur de 4 000 euros par an pour l'embauche de jeunes jusqu'à 2 SMIC. Et donc, c'est une mesure pour toutes les entreprises et pour tous les jeunes qui sont embauchés dans les 6 prochains mois.
Madame la ministre, le Sénat voulait élargir le dispositif, le MEDEF voulait aller jusqu'à 27 ans. Ça va forcément défavoriser les Bac plus 5, par exemple?
Écoutez, je pense qu'on a une mesure qui est très large. On a eu ces échanges avec les partenaires sociaux. Alors, il y a forcément des points de vue différents qui s'expriment. Je ne l'ai pas dit, mais cette mesure, elle concerne les jeunes qui sont embauchés en CDI ou un CDD d'au moins 3 mois.
D'au moins 3 mois.
Voilà, d'au moins 3 mois. Donc, certains trouvent que ce n'est pas assez, d'autres que c'est... En tout cas, c'est une mesure massive qui va nous permettre, là encore, de soutenir l'embauche de centaines de milliers de jeunes. Et je pense que c'est vraiment une des façons de répondre à ce renvoi d'ascenseur, si je peux dire, vis-à-vis de notre jeunesse, à qui on a beaucoup demandé, notamment pendant le confinement.
Vous venez de le dire justement, ouvert au CDD d'au moins 3 mois. Est-ce que ça ne va pas favoriser, madame, les contrats courts? Est-ce que finalement les entreprises ne vont pas se dire on va embaucher et puis dans 6 mois, on va licencier finalement? En tout cas, on ne reconduira pas le CDD.
Alors, au contraire, je pense qu'on est en train d'encourager des contrats plus longs. Vous savez que 75% des embauches, elles se font pour les jeunes, se font sur des CDD de moins de 3 mois. Donc, au contraire, on est en train de tirer sur des contrats plus longs. Et quand je dis que c'est 4 000 euros par an, c'est en réalité 1 000 euros par trimestre. Et donc, si on peut tirer parti au maximum de cette prime, c'est en gardant
les
jeunes
aller sur le long terme.
Longtemps.
D'accord. Pour les grosses entreprises, madame la ministre, est-ce qu'il n'y a pas un effet d'aubaine? Elles auraient de toute façon recruté?
Écoutez, je pense qu'on a forcément des effets d'aubaine quand on met en place des dispositifs, mais c'est un message très fort qu'on veut passer à notre jeunesse, qu'on soutient On est en train de parler de cette prime de 4000 euros. On pourrait aussi parler des dispositifs qu'on met en place pour, là aussi, encourager des entreprises qui vont embaucher un apprenti. Donc, une prime de 5000 euros pour les jeunes de moins de 18 ans.
Et 8000 euros pour les majeurs. Ouais.
Ça veut dire, pour dire les choses très clairement, qu'embaucher un apprenti pour une entreprise, ça ne va quasiment rien coûter la première année grâce à cette prime. Et donc, c'est vraiment un appel que moi, je veux lancer à toutes les entreprises. Vous mentionniez le déplacement de ce matin avec le Premier ministre. On voit des jeunes qui vraiment sont dans des parcours de réussite grâce à l'apprentissage. Ils ont besoin de pouvoir avoir un stage en entreprise. Et avec cette prime, voilà, ça ne leur coûte quasiment rien. Et on met le pied à l'étrier à des jeunes pour rentrer dans la vie professionnelle.
Madame Ban, vous parliez à l'instant de l'apprentissage. Il y a 15% seulement d'apprentis dans les toutes petites entreprises, les TPE, qui disent finalement on n'aura pas les moyens, on n'aura pas les salariés pour s'occuper, pour former ces apprentis. On va pouvoir en prendre.
Écoutez, moi, j'entends des entreprises qui nous disent la conjoncture économique n'est pas bonne, donc même avec votre prime, c'est compliqué pour nous. Je voudrais quand même aussi souligner qu'on va avoir un plan de relance qui va booster des nouveaux secteurs, enfin en tout cas les secteurs d'avenir de la transition écologique, de la transition numérique, de tout ce qui est autour du soin. Donc on va effectivement donner des aides massives, 100 milliards d'euros pour faire repartir notre économie. Et là, on demande aux entreprises, effectivement, d'avoir tous ensemble une attention particulière pour nos jeunes, de leur permettre de rentrer sur le marché du travail.
Elisabeth Borne, il y a bien sûr aussi les jeunes éloignés depuis longtemps de l'emploi. Vous faites quoi pour les remettre dans le jeu, en quelque sorte?
Alors, on aura 300 000 parcours ou contrats d'insertion qui sont justement destinés à ces jeunes qui sont plus loin de l'emploi. On a à la fois des dispositifs qui existent comme la garantie jeune, vous savez, où on a un accompagnement global des jeunes pour leur donner à la fois des formations, des expériences en entreprise. Et on augmente de 50% les places qu'on va offrir pour ces garanties jeunes. Donc on a 50 000 garanties jeunes supplémentaires. On veut aussi soutenir leur insertion par l'activité économique. Et puis, on va avoir des contrats aidés. Là encore, on va avoir 60 000 contrats aidés supplémentaires, ce qu'on appelle les parcours emploi-compétences, pour accompagner, mais vraiment de façon très personnalisée, les jeunes vers l'emploi. Et je tiens à le souligner, hein, ce n'est pas une voie de garage, ces contrats aidés, c'est un tremplin vers l'emploi.
Madame Borne, la gauche, les Verts, réclamaient notamment l'ouverture du RSA aux moins de 25 ans. Ce n'était pas une bonne piste pour vous ?
Ce qu'on est en train de faire, c'est de permettre à tous les jeunes d'aller vers l'emploi, d'aller vers une formation, de bénéficier d'un service civique avec une rémunération. Je n'ai pas eu l'occasion de le dire, mais vous savez, on est en train de revaloriser aussi la rémunération des jeunes quand ils sont en formation professionnelle. Ça ne s'était pas fait depuis 1988. Là, on va passer de 300-340 euros par mois à 500 euros par mois. Donc, ça veut dire qu'aucun jeune ne sera freiné dans son projet pour aller vers l'emploi avec un problème de ressources. Donc, soit vous avez un contrat en entreprise, soit un service civique, soit vous voulez faire une formation. Et là, on revalorise, ce ne s'était pas fait depuis des décennies, la rémunération des stagiaires de la formation professionnelle pour que tous les jeunes puissent avoir une forme d'émancipation par l'activité, par la formation, par l'emploi.
Dernier point, Madame la Ministre, les partenaires sociaux ont découvert le projet de décret sur le retour aux règles de l'assurance chômage d'avant le 1er novembre 2019. Il ne s'appliquera pas aux personnes qui ont perdu leur emploi avant le 1er août. C'est quand même assez paradoxal. On reporte la réforme de l'assurance chômage, mais pas totalement finalement.
Écoutez, on avait pris l'engagement de revenir sur la dégressivité, on va le faire. De ne pas changer le mode de calcul de l'allocation chômage, on va le faire. Ensuite, on est aussi très pragmatique, hein. Il faut que ça se mette en place au 1er août. Et on a, enfin, je dirais de façon très basique, des problèmes aussi de système d'information. On ne va pas prendre le risque de faire des acrobaties sur ces systèmes d'information qui permettent d'indemniser les chômeurs. Mais on va continuer les échanges avec les organisations syndicales. Je pense que vraiment...
Mais vous nous confirmez ce soir, madame, que la première étape n'est donc pas annulée.
Écoutez, il y a des étapes qui ne se sont pas mises en œuvre et je pense notamment les organisations syndicales ont attiré notre attention sur le mode de calcul de l'allocation chômage et ce nouveau mode de calcul ne rentrera pas en vigueur comme on s'y était engagé.
Ça partait bien pourtant avec les partenaires sociaux et là ce soir ils se sentent un peu floués finalement.
Non, je ne pense pas. Vous savez, je pense que vraiment on a pris des engagements très forts en considérant que c'est une bonne réforme mais que le contexte a changé et ces engagements on les tient sur la dégressivité, sur la période nécessaire pour ouvrir des droits, sur le mode de calcul de l'allocation chômage, et on pourra continuer des échanges, mais je pense vraiment qu'on tient les engagements qu'on a pris.
La nouvelle ministre du Travail, Elisabeth Borne, sur Europe 1 ce soir. Grand merci à vous, madame.
Au revoir.
Merci.
Europe 1. Jusqu'à 20h, c'est votre grand journal du soir sur Europe 1 avec Thierry Dagiral. À suivre.
Le rappel des titres et la météo des plages, puis les grandes voix ce soir, Alexandre Malafaille et le politologue Benjamin Morel. Nice, où Gérald Darmanin est actuellement sur place, mais également Lille, Lyon, le ras-le-bol des maires face aux incivilités du quotidien. 39-21, vous prenez la parole pour nous dire ce que vous vivez, vous, au quotidien. Tout de suite.
Europe 1.
Jusqu'à 20h, le grand journal du soir sur Europe 1. C'est avec vous Thierry Dagiral, il est 18h31.
Avec l'essentiel de l'actualité, François Claus.
La République fera plier ceux qui veulent l'attaquer. Voilà les premiers mots de Gérald Darmanin en visite surprise cet après-midi à Nice, dans le quartier des Boulins, où une fusillade avait éclaté en plein jour lundi dernier. Le Premier ministre Jean Castex annonce à son tour qu'il sera à Nice samedi prochain, promettant des mesures fortes pour lutter contre les violences. 6,5 milliards d'euros pour sauver une génération, c'est le défi que lance le gouvernement en présentant son dispositif d'aide à l'embauche des jeunes. 4,000 euros pour inciter toute entreprise qui embaucherait un jeune gagnant jusqu'à l'équivalent de 2 SMIC. Adjoint à la mairie de Paris mais contesté depuis ses prises de position en soutien à l'écrivain pédophile Gabriel Matzneff, Christophe Girard annonce ce soir qu'il quitte son poste. Le Parlement européen le menace lui de bloquer le budget de l'Union européenne, remettant en cause les coupes consenties par les 27 lors des négociations pour l'adoption du plan de relance. Non, l'OM n'est pas à vendre. L'actionnaire américain Frank McCourt refuse dans un communiqué d'ouvrir toute négociation avec le milliardaire franco-tunisien Ajroudi, candidat au rachat. La bourse est ce soir à Thônes, à Paris, à 5033 points.
Merci François. Édition complète à nouveau à 19h. La météo des plages, Valérie Darmon.
Eh bien, c'est nuageux sur la partie nord de l'océan Atlantique, depuis le golfe du Morbihan jusque sur les sables de l'Aune. Surtout demain matin. Ensuite, le temps va se dégager à partir de la Vendée jusque sur le Pays Basque avec un grand beau temps, mais une baisse des températures aux alentours de 22 à 24 et l'océan est entre 18 et 23. Petite pluie aussi sur la Bretagne, la Basse-Normandie jusque sur Étretat et Dieppe. Bien nuageuse, il va pleuvoir plus ou moins de manière éparse entre Deauville et Brest avec des valeurs aux alentours de 22, un petit peu plus faible sur la partie nord sous les nuages, et beau temps sur la Méditerranée, qui est entre 21 et 26 degrés, relativement agité du côté du Var.
Merci beaucoup Valérie Darmon.
Analyse et décryptage de l'actu avec vous Thierry Dagiral et les grandes voix. Ce soir, Alexandre Malafaille du think tank Sinopia. Bonsoir. Et le politologue Benjamin Morel. 39-21, si vous souhaitez réagir, 39-21, c'est le standard d'Europe.
Bien sûr, on vous attend 39-21. Bonsoir messieurs, merci d'être présents ce soir en studio. On l'a vu, hein, le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin est à Nice pour une visite surprise. Ça semble être le quotidien maintenant. Hélas, lundi, c'était une fusillade donc devant un supermarché à Nice. Le maire de Nice, Christian Estrosi, a exprimé son ras-le-bol. On l'écoute.
Les réactions auxquelles vous avez assisté tout à l'heure, c'est tout simplement des gens qui sont en colère de comprendre ce qui est en train de se passer, à savoir que la police ne va plus rien lâcher et que, je le dis ce soir, nous ne lâcherons rien jusqu'à ce que le dernier dealer ait encore le sentiment d'être libre, de pouvoir faire son marché ici.
Voilà Christian Estrosi, Gérald Darmanin donc est à Nice. Jean Castex a annoncé qu'il se rendrait sur place samedi. C'est, Alexandre Malafaille, pardon, le combat de l'exécutif. Ces incivilités du quotidien, comme ils disent.
Oui, le terme est sans doute mal choisi. Je comprends qu'il ait fait réagir pas mal de monde parce que derrière ce mot-là, on met, on va dire, des problèmes de rapport du quotidien. Et bien souvent, ça va bien au-delà. Ce qui s'est passé à Nice, c'est pas du tout dans le domaine ou sur le territoire des incivilités. C'est beaucoup plus fort. Et c'est vrai que je crois que les forces de police ont raison de dire que là, on a mal nommé les choses. Ça, c'est clair. Après, l'État va réagir. Là, c'est l'occasion de revenir sur le terrain du régalien, évidemment.
Exactement.
Dans toute sa splendeur.
Qui est le point faible d'Emmanuel Macron?
qui en tout cas n'est pas son point fort. Il n'a pas attaqué son quinquennat sur ces sujets-là, mais ça correspond à ses choix. Il a fait des choix qui étaient liés à son programme, à sa volonté de relancer la France, à sa vision du projet français, européen, international. Voilà. Après, c'est vrai qu'il n'avait pas non plus une expérience de ces questions, donc il n'en a pas fait forcément une priorité, mais son choix, c'était, voilà, on peut le respecter. Malgré tout, il n'a pas rien fait non plus, il a mis des hommes en place, et puis il y a pas tout n'est pas toujours visible. Voilà, ça c'est clair. En revanche, ce qui est vrai, c'est que les discours qu'on a entendus aujourd'hui, la visite du Premier ministre, voilà, la République fera plier, des mesures fortes, enfin, c'est la même rengaine depuis 20 ans. Ouais. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Et là, j'ai le sentiment qu'une fois de plus, si on ne s'attaque pas au problème de la bonne manière, c'est-à-dire véritablement en mettant les acteurs autour de la table. Vous savez, on vient de faire un Ségur de la santé. Ouais. Est-ce qu'il ne serait pas temps de faire un Vendôme de la justice et de le faire en allant au-delà simplement de la problématique judiciaire, mais de reprendre la problématique de la chaîne judiciaire dans son ensemble, c'est-à-dire le continuum, en fait, la police, la justice et l'administration pénitentiaire. Et ce travail-là, il n'est pas fait. On devrait le faire parce qu'il y a aujourd'hui, quand on parle de ces incivilités, mais qui sont bien plus que ça, il y a tout le problème du dysfonctionnement de la chaîne pénale et de la réponse apportée, de l'absence de sanctions ou des sanctions qui ne sont pas exécutées. Donc finalement, une certaine forme d'impunité et qui fait qu'on aura beau taper du poing sur la table, ça n'aura que l'effet du poing qu'on tape sur la table.
Le débat est donc posé avec vous. Benjamin Morel, politologue. Le régalien va redevenir à la une avec moins de 600 jours maintenant d'Emmanuel Macron.
Oui, moins de 600 jours en réalité. Alors je suis tout à fait d'accord avec ce qui vient d'être dit sur les ambitions qu'il serait nécessaire d'avoir pour réformer tout ça. La réalité, c'est qu'il y a aujourd'hui 13 mois d'agenda parlementaire effectif.
C'est ça. Hein, c'est
de
ça.
Septembre jusqu'en janvier 2022.
Ce que vous dites, c'est qu'il y a peu de temps pour agir.
Il y a très peu de temps. Et là, très clairement, on est sur quelque chose qui implique un vrai travail de fond et qui, pour être payant et pour être rentable en fin de quinquennat, doit être débuté en début de quinquennat. Donc quand vous ne pouvez pas faire de grandes réformes de fond, il vous reste la communication. Avoir un ministre de l'Intérieur, puis un Premier ministre qui intervient sur place, en soi, ça ne change pas grand-chose. Ça permet en effet de voir localement quelques ajustements à faire. Mais la réalité, c'est que vous pouvez bouger les choses qui à Dijon, qui à Nice, ouais. Mais que les problèmes de fond, les problèmes structuraux, vous ne les transformez pas. Donc là, on est dans une stratégie qui est une stratégie de communication, qui est une stratégie de communication qui a également des visées électorales.
Mais maintenant, il faut des actes et du changement derrière, c'est ce que vous nous dites.
Alors, il faut du changement, mais encore une fois, il apparaît difficile d'avoir ce changement aujourd'hui au cours de ce quinquennat. Très clairement, il n'y a pas le temps. Ça impliquerait un vrai travail de fond qui ne peut pas être fait sous ce quinquennat. Éventuellement, on pourrait rentabiliser un Vendôme de la justice pour un prochain quinquennat, mais actuellement, c'est impossible. Donc, il reste l'adresse à l'électorat. Entre Emmanuel Macron et l'électorat de centre-droit, qui est un électorat extrêmement important pour Emmanuel Macron, notamment l'électorat des personnes âgées. On va avoir dans un an des élections départementales et régionales. C'est des élections à très forte abstention, où votent notamment les personnes âgées. Et une élection avant une élection présidentielle, c'est évidemment une élection qu'il ne faut pas tout à fait perdre, ou dans laquelle il ne faut pas être tout à fait ridicule en tout cas. Donc il est important pour Emmanuel Macron de s'adresser à cet électorat-là. Cet électorat-là est d'accord avec lui sur les questions économiques, mais il y a aujourd'hui un vrai clivage entre lui et cet électorat-là. Ouais. C'est le régalien.
Que peut faire le gouvernement en moins de 600 jours maintenant pour vaincre ces incivilités du quotidien? On en parle dans un instant et puis on va prendre beaucoup d'appels ce soir en 39-21. On va vous écouter dans un instant. A tout de suite.
Europe 1.
Europe 1. 18h40, la suite du Grand Journal du soir sur Europe 1, avec vous Thierry Dagiral et nos grandes voix ce soir, le politologue Benjamin Morel et Alexandre Malafaï du think tank Sinopia.
Et on parle ce soir des incivilités du quotidien, alors que Gérald Darmanin effectue en ce moment même une visite surprise à Nice, où on rejoint Serge qui nous a appelé au 39-21. Bonsoir Serge.
Bonsoir.
On vous écoute.
Oui, alors moi vous portez l'expérience de 12 ans de responsabilité de président sur le comité de quartier, le grand quartier, sur Nice. Donc ce que je peux vous dire, c'est un constat, je vais essayer de faire...
C'est quoi, c'est une association de riverains, c'est ça hein.
Voilà, donc la première des choses, il y a un travail en urgence et un travail de fond. La première en urgence, c'est un renforcement des effectifs de la police nationale, je dis bien de la police nationale, sur la ville de Nice. On a des effectifs qui sont équivalents à ceux de 1950, c'est-à-dire 850 policiers pour 400 000 habitants et des centaines de milliers de touristes et autres. Ça, c'est le premier point en urgence.
Ouais.
Le deuxième point, c'est au niveau de la justice. Revoir les décisions de la justice sur les prédélinquants ou délinquants confirmés, c'est-à-dire stop au laxisme. Et le troisième point, ce serait la reconquête de l'esprit républicain, mais ça c'est le travail de fond, puisqu'il n'y a pas que le travail répressif ou ce que j'ai cité en urgence dans la première partie, mais l'esprit républicain, c'est-à-dire l'école, le travail de l'école, la responsabilité des familles, lutter contre le chômage de masse des jeunes, qui est des portes ouvertes pour la délinquance qui se développe dans nos quartiers. Mais en urgence, il y a un renforcement des effectifs sur la ville de Nice. Je suis en train d'essayer de fédérer tous les comités de quartier de Nice pour essayer de faire pression sur les autorités préfectorales d'État pour que nous ayons un renfort entre 100 et 200 policiers fonctionnaires qui sont manquants sur cette police niçoise et qui est en souffrance.
Ouais, des renforts de police, Alexandre Malafaille ?
Oui, de toute façon, la problématique, en fait, elle concerne Nice, mais pas que Nice, évidemment. Il y a un problème de fond également qui est celui des problèmes des polices municipales. C'est-à-dire que, d'abord, toutes les villes n'en sont pas dotées et elles ne sont pas fédérées de la même manière que sont les polices, la police nationale ou la gendarmerie. Et vraisemblablement, elles n'ont pas toutes les mêmes attributions. Certaines sont armées, d'autres ne le sont pas. Là aussi, il y aurait besoin, je pense, d'aller vers une forme d'éclaircissement de ces polices municipales et sans doute peut-être de modifier leur attachement. Enfin, en tout cas, il y a un sujet d'efficacité. Et après, pour aller dans le sens de ce que disait votre auditeur, il ne faut pas perdre de vue aussi que derrière ces problèmes d'incivilité du quotidien, enfin de tous ces faits qui pourrissent la vie des gens au quotidien, qui sont vraiment pour certains habitants dans certains quartiers au quotidien, qui sont vraiment, mais qui vivent... Non, c'est un enfer. On est emmerdé en permanence.
Des habitants, c'est ça.
Et sauf que derrière, vous avez la chaîne judiciaire et son fonctionnement. Ouais. Et même si elle fonctionne pas si mal que ça, parce que les magistrats font leur boulot, les avocats font leur boulot, tout le monde fait son boulot. Mais c'est très lent. Alors parfois, c'est pas bien appliqué. Mais surtout, le problème, c'est que vous avez un écart de temps incroyable entre la commission du fait et le prononcé de la sanction.
Exactement.
Et après, l'application éventuelle. Donc, quand il se passe 2 ou 3 années entre le moment où vous avez fait une bêtise et le moment où vous êtes sanctionné, très sincèrement, ça ne vous a pas empêché de recommencer 15 fois.
Merci à vous, Serge, de nous avoir appelé au 3921. Benjamin Morel, justement, Jean Castex, qui ira sur place à Nice samedi, veut lutter aussi contre les petites incivilités du quotidien, remettre des juges de proximité pour traiter rapidement les délits. Ça va dans le bon sens, c'est ce que vient de dire Alexandre ?
Alors théoriquement, oui, mais alors on voit mal comment est-ce que ça va être mis pratiquement en scène, si vous voulez. C'est-à-dire que qu'est-ce que ça va être ces juges de proximité qui n'ont rien à voir avec leurs prédécesseurs, qui étaient des juges qui n'en étaient pas ? Là, très clairement, on va se retrouver avec des juges qui, a priori, iront sur le terrain, jugeront directement un certain nombre d'infractions qui ont été commises. Le fait d'avoir des juges sur le terrain, déjà, ça va coûter cher. J'y reviendrai, mais à mon avis, c'est l'un des éléments cruciaux quand on veut comprendre aujourd'hui les problèmes. Par ailleurs, il y a déjà, à travers les comparutions immédiates, des procédures qui existent. Le problème, c'est de prendre le délinquant sur le fait et ensuite de le faire comparaître. Là, ça implique également un renforcement des moyens policiers. Donc ça pose d'autres problèmes. Par ailleurs, quand on fait des études, il est intéressant de voir que le fait, justement, d'amener un primo-délinquant dans un palais de justice, avec ses colonnes. D'ailleurs, c'est intéressant de voir également la grande différence entre les palais de justice d'un point de vue architecturaux, tribunal de grande instance de Paris, moderne et ancien. L'ancien a une capacité légitimante de l'action et intimidante qui, en fait, peut avoir une influence sur la façon dont on perçoit la justice et potentiellement sur le taux de récidive. Donc l'idée d'avoir un juge, je caricature un peu, mais en bras de chemise, qui juge directement sur le terrain, c'est peut-être pas forcément une bonne idée. Par ailleurs, ça va coûter cher. Et aujourd'hui, on a un problème, que ce soit dans la police ou dans la justice, qui est tout bêtement un problème de moyens. Pour accélérer les procédures, il faut des moyens. La réalité, c'est qu'on dit beaucoup que, il y aurait trop de fonctionnaires, etc. La fonction publique territoriale, dont fait partie la police municipale, a explosé depuis le début des années 2000. En revanche, la fonction publique d'État, elle, est stagnante. Derrière cette fonction publique d'État qui est aujourd'hui sinistrée, vous avez l'éducation nationale, vous avez les juges et vous avez la police. Très clairement, si aujourd'hui on ne met plus les moyens dans ces services publics, on peut difficilement s'étonner de l'état de la société et de la difficulté.
Donc il faut un beau mot de la police aussi, ça va faire du boulot.
Il va falloir mettre les moyens dans cette fonction publique-là.
Il faut en tout cas, bien sûr, remettre vraiment à plat les choses. Et c'est vrai, pas uniquement dans le ministère de la Santé. Tous ces ministères n'ont pas été réformés en profondeur pendant de trop nombreuses années. Donc on a accumulé des problèmes. On a fait des choix budgétaires, là aussi, en France, qui ont privilégié peut-être le social au détriment d'autres choses. Maintenant, on paye la facture. On dit qu'il faut des moyens. Alors, est-ce qu'on va les trouver ? J'en sais rien. Mais regardez la magistrature en France, comme l'administration pénitentiaire. On est sur les magistrats. On a à peu près le même nombre de magistrats qu'en 1945, à 2000 près. C'est ridicule. Alors que la population française a presque doublé, elle a presque doublé, pas tout à fait, mais quand même, on est passé de 40 millions à 60, presque 70 millions. Mmh. Et bien sûr, la société s'est beaucoup plus judiciarisée. Donc on ne peut pas rester sur ces effectifs-là. Alors certes, on dématérialise, mais ça ne suffit pas. Après, vous avez, là, on peut dire qu'on va peut-être mettre des magistrats sur le terrain pour faire de la justice rapide, ouais. de proximité, pourquoi ouais. pas. Malgré tout, vous avez les droits de la défense qu'il faudra bien respecter, et bien les sûr. Avocats sont déjà plutôt vent debout par rapport à cette procédure-là. C'est et puis, que... n'oublions pas juste une chose, la justice était déjà très engorgée, et les 3 mois d'interruption de séance, si je peux dire, liées à la crise du Covid, fait que les tribunaux sont dans un état de saturation, et les magistrats aussi. Je vais vous donner un exemple. Vendredi, à Évry, quelqu'un que je connais très bien, est allé défendre un cas particulier donc au TGI d'Évry. L'audience a commencé à 13h, elle s'est terminée à 23h. Vous imaginez, pour les magistrats, pour les avocats, pour les prévenus, une audience de 11h, c'est hallucinant. Donc la justice en est là, donc elle a détaché des gens pour aller faire de la justice du quotidien, j'attends de voir.
Et rapidement, on a fait l'inverse, c'est-à-dire qu'avec la fusion des tribunaux d'instance et de grande instance, avec la création de ce qu'on appelait les tribunaux judiciaires, on a éloigné la justice. Donc beaucoup plus que des juges dont on ne voit pas exactement la fonction aujourd'hui. Revenons peut-être sur la réforme qui a été très très mal perçue par le monde judiciaire.
Allez, le grand ras-le-bol des maires face à ces incivilités quotidiennes. On continue à en parler dans un instant. 39-21.
Jusqu'à 20h, vous écoutez Thierry Daviral sur Europe 1. C'est le grand journal du soir et on continue à décortiquer l'actu avec les grandes voix. Dernière partie avec nous ce soir, Alexandre Malafaille du think tank Sinopia et un spécialiste en sciences politiques, Benjamin Morel.
Et on parle jusqu'à 19h de ces incivilités du quotidien. Gérald Darmanin est à Nice après 3 jours après qu'il y ait eu un souci dans un quartier, le quartier des Moulins à Nice. Nice d'où Florian nous appelle. Bonsoir Florian.
Oui. Bonsoir.
On vous écoute, dites-nous votre sentiment sur ce qui se passe spécifiquement à Nice, chez vous.
Écoutez, j'ai le sentiment qu'il y a une prise de conscience qui s'opère et que justement, par rapport à une situation qui est très grave et qui est caractérisée par les images, je pense qu'on a tous vu, il y a aujourd'hui une prise de conscience et une action de la mairie notamment pour reprendre dessus.
Mais vous avez vu les choses changer, c'est pire qu'avant ou pas hein?
Alors, c'est à la fois pire qu'avant, et ça je pense qu'on le voit aussi, on voit tous des images au niveau national ou à Nice, et en même temps, là, il y a une volonté avec les pouvoirs élargis qui sont cherchés pour la police municipale, de rebondir, en tout cas de permettre à l'État de droit de reprendre une position qu'il n'aurait jamais dû abandonner.
Merci.
Donc on sent quand même une... un changement, en tout cas, une nouvelle inclinaison.
Merci à vous, Florian, de nous avoir contactés au 39-21. Yanis, mais il y a eu, bien sûr, le chauffeur de bus de Bayonne décédé après un passage à tabac. Mélanie, la gendarme tuée en intervention. Les pompiers qui se font tirer dessus. La jeune aide-soignante écrasée près de Lyon. Alexandre Malafaille, l'effet de violence se multiplie réellement ou est-ce que c'est la société qui est en tension sur ce thème-là?
Oui, la société est en tension, mais la société, c'est beaucoup déstructuré, vous savez. La société a profondément changé par rapport à ce qu'elle était il y a 30 ou 40 ans. Le livre de Jérôme Fourquet sur l'archipel français le décrit très très bien. Ouais. Et on est face, en même temps de ces changements profonds, en fait, petit à petit, un recul du respect de l'État, parce que cette autorité qu'exerce l'État n'est pas bien exercée. Vous avez des défauts de gouvernance, des systèmes qui ne fonctionnent pas bien, qui ont accumulé du retard, qui ne se sont pas remis en question, et finalement, petit à petit, cette autorité n'est plus respectée. Et donc, ce qu'on ne faisait pas, enfin, on n'attaquait pas les pompiers, on n'attaquait pas les soignants. Maintenant, on fait des choses absolument invraisemblables. Et il y a une reconquête de l'autorité de l'État à construire. Mais ça va supposer des années et des années.
Mais j'ai l'impression que ça fait des années qu'on en parle. On se souvient, on se le disait à l'instant, les images de Gérald Darmanin à Nice, ça ressemble étrangement à celles de Nicolas Sarkozy, ministre de l'Intérieur, en 2005.
Avec son Karcher.
Exactement.
Oui, là, on est dans une méthode de communication. C'est-à-dire, il s'agit justement de dire « je suis sur le terrain, je règle le problème parce que je suis sur le terrain ». Encore une fois, il ne faut pas être dupe de la communication politique qui a sa légitimité, hein, dans la perspective d'une campagne qui va arriver bientôt. Et encore une fois, de la nécessité
sur la table
d'aller chercher l'électorat de droite, de centre-droit pour Emmanuel Macron. Sûr. Après, ça ne signifie pas qu'il n'y a pas un problème structurel de fond.
C'est ça.
Ce problème structurel de fond, il est en fait multifactoriel. Il y a une forme, vous parliez tout à l'heure de l'archipel français, il y a une forme de déstructuration de la société française. On parle beaucoup des quartiers, etc. Moi, l'une de mes spécialités, c'est par exemple la décentralisation et le régionalisme. Je peux vous dire que la remise en cause radicale de l'État n'est pas liée que dans ces quartiers. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on voit qu'il y a d'autres parties du territoire qui posent également cette question de la légitimité de l'État du régalien. Donc, il y a cet aspect-là. Vous avez ensuite l'aspect services publics qui sont dysfonctionnels parce qu'encore une fois, un défaut de financement important de ces services publics sur en fait les 20 dernières années, avec notamment justice, police et éducation. Et ensuite, eh bien, vous avez tout ce qui va relever, je dirais, de l'appréciation d'une civilité et d'un lien, d'une construction du commun. Et là, vous avez le rôle de l'école. Le rôle de l'école qui, aujourd'hui, eh bien, n'est plus tenu dans un certain nombre d'endroits parce que, justement, eh bien, au regard... Alors, il y a des choses qui ont été initiées au début du quinquennat d'Emmanuel Macron, hein, le décuplement des classes, etc. Dans tous les cas, toutes ces politiques donc, qu'on vient d'évoquer, que ce soit un Vendôme, etc., tout ça, ce sont des politiques qui sont des politiques de 20 ans.
Alexandre Malafaye, on parle beaucoup des territoires, c'est le nouveau mot à la mode. On a vu, on a écouté à l'instant, enfin en début à 18h30, Christian Estrosi, on a entendu Martine Aubry, on a entendu Jean-Luc Moudin à Toulouse. Là, les maires sont en première ligne. Il va y avoir un rôle important justement sur cette question-là, du règlement des incivilités, le rôle des maires.
Vous savez, comme dirait Xavier Bertrand, ces élus-là sont vraiment à portée de baffe ou à portée d'engueulade.
Oui.
Voilà. Et bien sûr que, quelque part, dans une réflexion de fond sur qui doit faire quoi, puisque cette réflexion que voudrait engager Emmanuel Macron, que promet Jean Castex, voilà, il y a une réflexion autour de ce qu'on appelle la subsidiarité, c'est-à-dire le bon niveau de l'action publique.
Exact.
Et c'est vrai qu'il vaut mieux rapprocher ce type de responsabilité au plus près du terrain. En tout cas, c'est ce qui paraît le plus évident. Alors après, il faut s'en donner réellement les moyens. C'est-à-dire que si vous transférez des responsabilités, des compétences aux élus pour qu'ils puissent davantage s'occuper de ces questions-là et pas se retrancher ou en tout cas dire c'est Beauvau, c'est Paris, etc.
Ouais.
Eh bien, ça veut dire qu'il faut vraiment aller au bout d'une démarche et on en est très loin. C'est-à-dire qu'il faut, là encore, je le disais tout à l'heure, il faut repenser pour que ce soit efficace. C'est pas qu'une question de police. C'est une question de police, c'est une question de justice, c'est une question de sens de la peine, d'exécution de la peine, de vitesse. Je le rappelle encore, mais entre le moment où vous prenez quelqu'un en flagrant délit et vous le sanctionnez, s'il se passe 3 ans, c'est trop tard.
Benjamin Morel, on va terminer avec vous parce que ces maires, justement, ils semblent aujourd'hui complètement désemparés, oubliés, délaissés.
Oui, parce que c'est pas vraiment leur rôle. Là, on est au cœur des activités régaliennes. Donc, en effet, vous avez le maire, parce qu'également, il est représentant de l'État. On l'oublie souvent, mais il est représentant de l'État. Vous avez des rôles en termes de police administrative, donc plutôt de prévention. Mais la répression, la police nationale et la justice, c'est du domaine de l'État. Et en l'occurrence, c'est l'État qu'il faut réarmer sur ces territoires, ne serait-ce que parce que si jamais on devait confier des missions répressives à la police municipale, ça poserait des problèmes d'égalité. Parce que les communes qui sont aujourd'hui les plus sinistrées financièrement sont également celles qui peuvent avoir des problèmes d'insécurité. Donc si jamais la sécurité est liée au budget de la commune, à ce moment-là, on se retrouve avec une France de l'insécurité et une France plus aisée qui peut se payer la sécurité. Ce n'est pas tout à fait l'esprit républicain.
Donc voilà pour ces incivilités du quotidien ce soir dans vos grandes voix. Merci à vous deux, messieurs. Merci beaucoup.
Merci.
Europe 1. À suivre, Thierry Dagiral.
Dans un instant, le journal de 19h, on sera en Corse. Est-ce que sur l'île de Beauté, on respecte les gestes barrières ? À tout de suite.